Demadior, Emma Rochelaou, Radio Seven Dead, Radio Courtoisie et Galec, en Abaden, Aed Arpagelou, Kiniged quand on aime Banner, en Aotrou, Benoît Mancheron.
Bonjour, Grégoire Poul. Je crois que c'est la première fois qu'on introduit une émission, en tout cas mon émission, en breton, puisque vous êtes bretonnant et sonneur de cornemuse.
Oui, tout à fait.
Également.
Voilà, donc chers auditeurs, vous aviez tout simplement la présentation
et
de
donc
l'émission.
Un passionné, voilà, pas plus que passionné de Bretagne.
Voilà, la présentation de l'émission au fil des pages en breton.
Alors vous venez à l'occasion, cher Grégoire Poul, non pas à l'occasion de la parution de votre livre, intitulé donc Yosagan, l'enfant Jésus et autres contes irlandais, de Patrick Pearce. Quand je dis votre livre, c'est votre traduction de ces contes irlandais.
C'était il y a 3 ans déjà.
Déjà,
le temps passe vite.
Ans,
oui. Les contes irlandais du premier président de la République d'Irlande, Patrick Pearce, très touchant, que l'on peut lire toute l'année, en été comme hiver, sachant qu'il y a dans ces contes un conte de Noël.
Exactement. Et que c'est empreint à la fois de poésie.
Poésie, ouais. On est vraiment dans le monde de l'enfance, les enfants, les enfants d'Irlande que Patrick Pearce a connus lorsqu'il était instituteur dans le Connemara. C'est donc cet univers vraiment enchanteur, féerique, le monde de l'ouest de l'Irlande qui a inspiré Patrick Pearce.
Alors finalement, on n'est pas si loin que cela, hein, puisque nous allons parler aujourd'hui de Bretagne à l'occasion de la parution de plusieurs ouvrages.
De plusieurs
vous
bandes dessinées.
Vous en avez
dessinées.
Apporté 3, ce sont 3 bandes dessinées.
Et il y en aura bientôt une 4e. Alors c'est aux éditions du Cygne, diffusées par Salvator Diffusion, donc des bandes dessinées que l'on est en train de mettre en place dans toutes les bonnes librairies de Bretagne et d'ailleurs. Les éditions du Cygne ont tout simplement comme projet de faire une histoire en bande dessinée pour chaque département. Alors, il y a une centaine de départements. Pour l'instant, ils sont à peu près à 30. Et la Bretagne est en phase d'être couverte, complètement couverte, avec déjà la parution, il y a 5 ans, de la bande dessinée Le Finistère. Une autre bande dessinée sur le Morbihan. Je vais les présenter à la caméra, puisque c'est une émission qui est filmée. Je vais les montrer rapidement.
Le avec Finistère. De très belles couvertures.
Le Morbihan.
Et avec des dessinateurs différents.
Il existe,
des illustrateurs
il existe
différents.
Également les Côtes d'Armor. Et pour Noël, à partir du mois de novembre, sortira en librairie L'Île et Vilaine. Et nous espérons l'année prochaine une histoire de la Loire-Atlantique. Comme ça, toute la Bretagne. La Bretagne, il y a 5 départements. La Bretagne historique sera enfin couverte, réunifiée dans la bande dessinée.
Vous avez voulu mettre l'accent sur le premier volume paru, donc sous la direction de Thierry Gigourel et Serge Finot, intitulé donc Le Finistère, une histoire entre terre et mer, tout simplement parce qu'on peut dire que c'est quand même le noyau dur de la Bretagne historique.
La Bretagne puissance 10, la Bretagne concentrée à 200%, le noyau dur, comme vous dites. Et alors, du coup, moi, j'exerce depuis quelques mois l'activité de représentant pour Salvator Diffusion pour tout l'ouest de la France, Normandie, Bretagne, Île-de-France, et ce qui m'amène à passer du temps dans le Finistère. Et lorsque je vais voir des libraires dans le Finistère, en particulier je pense à un moine de l'abbaye de Landévennec avec qui j'ai toujours plaisir de travailler, et lorsque je parle des autres départements, il les ignore. Morbihan, c'est pas vraiment la Bretagne, le Côte d'Armor, c'est pas tout à fait la Bretagne, le Finistère, c'est vraiment la Bretagne. Voilà, c'est ce que j'entends là-bas.
Alors ce terme de Finistère est un terme qui a été inventé à l'époque de la Révolution, mais on parlait auparavant, de Pen Arbed, à savoir la tête du monde.
Oui, alors l'expression Pen Arbed, on ne sait pas du tout depuis quand elle remonte. Alors c'est vrai que c'est un peu une gageure de faire une histoire des départements, puisque si on prenait vraiment à la lettre ce projet, toutes les bandes dessinées devraient commencer en 1790.
Avec le découpage
date officielle de la création des départements, Rien de ce qui existait avant 1790 ne devrait être dessiné, représenté, sinon sous l'angle de la préhistoire. Alors, avant la création du département du Finistère en 1790, les Bretons qui habitaient cette zone s'identifiaient par leur évêché. Alors, le département du Finistère est composé de l'évêché de Saint-Paul de Léon, l'évêché du Léon, à la très forte identité et à la voilà, une culture agricole très, très marquée, une façon de prononcer la langue bretonne qui était très particulière, et les linguistes vous diraient que le véritable breton, le plus pur, le plus authentique, c'est dans cette région. Donc
pourtant, on y parle quasiment plus breton.
Alors, dans le Léon, la pratique de la langue s'est un peu écroulée ces dernières années, mais donc c'est la région de Saint-Paul-de-Léon au nord. Au sud, la Cornouaille, donc le diocèse de Quimper. Oui. Il y a également quelques paroisses du diocèse de Vannes qui ont été accrochées à ce département du Finistère, et quelques paroisses du diocèse de Tréguier, donc à l'est de Morlaix. Et alors, quelques paroisses du diocèse de Dole, en particulier Loc-et-Nolay, Carantec, diocèse de Dole, l'un des neuf diocèses bretons. Le diocèse de Dole avait la particularité, c'est qu'il revendiquait le titre d'archevêché, que l'Église ne lui a jamais officiellement décerné. C'était un diocèse minuscule, mais très riche, puisqu'il avait des monastères, des abbayes et des paroisses disséminées un peu partout en Bretagne et même en Normandie, puisqu'on trouve une paroisse de Saint-Sanson sur l'embouchure de la Seine qui dépendait du diocèse de Dole. Et ces paroisses, lui assuraient quand même des revenus confortables. Je crois qu'on s'est un petit peu étendu.
Alors, justement, à propos du Finistère, vous me disiez tout à l'heure que l'île d'Ouessant renvoyait un terme celtique, j'imagine.
Oui, tout à fait. Le peuple gaulois celte qui vivait dans cette zone du Finistère actuel, c'est le peuple des Osismes. César en parle un peu dans la guerre des Gaules, bien que ce ne soit pas le peuple qui lui ait donné le plus de fil à retordre, il y a eu quand même des combats. Oui. Aujourd'hui, c'est l'île d'Ouessant qui évoque par son nom le peuple des Osismes, puisque Eussa, Osisme en breton, c'est l'île d'Ouessant.
Alors, elle est habitée à l'époque par un peuple particulier ou...
L'île d'Ouessant.
Oui, non seulement l'île d'Ouessant, mais ce qu'on peut appeler le Finistère.
Le Finistère, donc c'est le peuple des Osismes, oui. Voisin des Vénètes.
C'est un peuple celtique.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de la fédération gauloise, avec les Arvernes au centre, les Carnutes, les Vénètes du côté de Vannes, les Namnètes à Nantes, les Corsiolites à Corseul, c'est-à-dire du côté de Saint-Brieuc, Dinan.
On imagine toujours une population assez primitive, vivant quasiment dans des cavernes, etc. Ce qui est totalement faux.
Absolument pas.
Puisque on s'aperçoit que non seulement ils n'étaient pas couverts de peau de bête, mais ils tissaient déjà. Il tissait
tout
déjà,
à fait. C'est ce
et la Bretagne sera d'ailleurs, le Finistère sera une terre.
Une terre de tisserands.
De tisserands.
Une toile de lin. c'est ce qu'on apprend effectivement dans les premières pages de la bande dessinée. Nous avons effectivement une jeune étudiante qui fait découvrir aux touristes le tumulus, le cairn de Barnenez, qui se trouve à côté de Morlaix. Un cairn qui a été redécouvert par hasard au cours d'un chantier.
C'est à peine incroyable, mais on se servait de ce tas de cailloux, on appelait ça un tas de cailloux.
Oui, comme mine de pierre.
Sans imaginer que ces sites-là étaient éminemment archéologiques.
Donc l'un des plus beaux cairns qu'on trouve en Europe. Et c'est effectivement cette guide conférencière explique aux touristes au cours des premières pages comment vivaient les populations pré-celtiques, parce que ceux qui ont bâti ces monuments, ces tumulus, ces menhirs, ce n'étaient pas du tout des Celtes, c'était des populations pré-Celtes. On ne sait pas grand-chose d'elles. Tout ce que, les traces que l'on a, ce sont les traces archéologiques, donc les pierres qu'ils ont, les pierres dressées, les menhirs qu'ils ont laissés derrière eux, les tombes royales, c'est-à-dire les cairns. On trouve également des traces de haches en bronze. Alors ces haches, qui n'étaient visiblement, vu la façon dont elles étaient fabriquées, ce n'étaient pas du tout des outils de travail, mais c'était apparemment une monnaie d'échange. Le billet de banque en forme de hache.
Ah oui, c'est curieux.
Oui.
Et donc, c'est, on peut dire que ces cairns, y compris, on en parlera un peu tout à l'heure, mais dans le Morbihan, par exemple, sur la presqu'île de Gavrini, il y a un magnifique...
Oui, tout à fait.
Gravé, enfin, c'est entièrement gravé à l'intérieur.
Oui, gravé. Gravé.
Ça date de la même époque.
À peu près 5000 avant Jésus-Christ, entre 6000 et 3000 avant Jésus-Christ. On retrouve
on
les
pense
mêmes.
Que c'était des sépultures.
On trouve les mêmes en Écosse, on en trouve en Irlande, oui. Sur l'Angleterre actuelle, donc cette population occidentale. On en trouve même jusqu'en Corse, hein, des populations qui vivaient en Europe avant l'arrivée des Celtes. Les Celtes sont arrivés, je le rappelle, vers l'an 500 avant Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire à peu près 2500 ans après la civilisation des mégalithes, et les Celtes venaient, eux, d'Europe centrale, c'est-à-dire d'Autriche, de Germanie, de la vallée de l'Ukraine, enfin donc c'est une population qui a colonisé l'Europe à partir de 500 ans.
Ce ne sont quand même pas des Caucasiens.
Alors, je ne sais pas ce que vous appelez Caucasien.
On a l'habitude de dire que les peuples d'Europe sont des peuples caucasiens d'origine, mais il est très probable que les... Celtes étaient aussi...
Ils appartiennent à la très grande famille des Indo-Européens, oui. Donc
exactement.
C'est très très vaste.
Pardon. Alors, la confrontation avec l'Empire romain, elle est à la fois... Elle peut connaître des moments d'apprivoisement, on pourrait dire.
C'est-à-dire, en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que les Celtes ont, pendant très longtemps, étaient les partenaires commerciaux privilégiés avec les Romains. C'est-à-dire que
tant que les Romains n'ont pas eu l'intention de les envahir, oui. pour aller notamment gagner l'Angleterre, ils étaient à peu près tranquilles.
C'est-à-dire que la vallée du Rhône, qui faisait la jonction entre le monde romain et le monde celte, c'était une espèce d'autoroute commerciale. Et je crois que les Romains leur vendaient du vin, les Celtes en échange leur vendaient de la viande. Les Celtes leur fournissaient des tonneaux, les Romains fournissaient des amphores, donnaient de l'huile. Il y avait des échanges et Jules César est intervenu dans la guerre des Gaules, il me semble, pour faire l'arbitre entre les Éduins et les Helvètes. Les Helvètes avaient pour projet d'envahir le territoire des Éduins et les Éduins ont appelé les Romains à l'aide pour combattre les Helvètes. Enfin, la guerre des Gaules a commencé comme ça, une espèce d'arbitrage des Romains pour un conflit entre deux tribus gauloises.
Donc, et je lis d'ailleurs dans cette bande dessinée très bien faite que les Romains s'appuyaient sur les élites locales pour asseoir leur domination et créer parfois des capitales de civitas ex nihilo.
Alors, tout à fait. Alors, permettez-moi d'insister sur un point, c'est que les scénaristes de cette bande dessinée ont eu vraiment une idée vraiment très astucieuse. Dès les premières pages, à partir de la page 7, on voit cette jeune fille qui est guide touristique. La nuit tombe, elle se retrouve donc en pleine nuit à côté du cairn de Barnenez, et là apparaissent des fantômes.
Oui.
Donc on trouve vraiment la patte celtique de Thierry Gigourel, le scénariste. D'abord, le fantôme d'une scène, E accent aigu, NE, c'est-à-dire une prêtresse celte. En Irlande, on les appelle les Bansic, c'est-à-dire des femmes féminins des druides.
Archétypiques. Je suis toutes les femmes, je suis un pan de notre mémoire.
Voilà. Et puis, immédiatement après l'apparition de ce premier fantôme, arrive un deuxième fantôme qui tout de suite m'a fait rire. C'est le fantôme d'Arthur Lemoyne de la Borderie. Alors Arthur Lemoyne de la Borderie, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bretagne, c'est le grand maître de l'historiographie bretonne. le premier à avoir écrit au XIXe siècle une histoire monumentale de la Bretagne en 6 volumes. Alors Arthur Lemoigne de la Borderie, c'est un élève de l'école des Chartes, donc c'est-à-dire pas n'importe qui. Il est sorti premier de sa promotion et il a été conservateur des archives du département d'Ille-et-Vilaine tout le XIXe siècle et professeur à l'université de Rennes. Donc c'est une autorité, c'est un petit homme plutôt gros de taille, avec une petite moustache, des tout petits yeux, derrière de minuscules lunettes, donc quelqu'un d'assez particulier. Et c'est ce fantôme d'Arthur de la Borderie qui va accompagner tout au long de la bande dessinée le lecteur à la découverte de l'histoire du Finistère.
C'est alors que l'homme qui prétendait s'appeler Arthur le moine de la Borderie lui apprit qu'en certaines nuits magiques, comme celle-ci, que les ancêtres appelaient Samin ou Samonios, les portes de l'autre monde s'ouvraient en grand pour laisser passer les Anaons, les esprits des morts et les femmes de l'autre monde, celles que les Irlandais appelaient Bandish.
Bandish. C'est ça.
Et c'est assez intéressant parce que on dit qu'aujourd'hui, enfin, les portes de l'autre monde qui laissent assez d'immenses tribus de nos ancêtres, c'est un peu cette fête nous est revenue des États-Unis.
Cette fête diabolique d'Halloween.
Qu'on appelle Halloween, finalement.
Alors, effectivement, la Toussaint, oui. Alors, c'est une fête celtique qui a été christianisée par l'Église. Et la Toussaint, c'était le début de l'hiver. Une nuit, 1er novembre, la nuit du 1er novembre, où on entrait dans la grande nuit de l'hiver et les Celtes avaient l'habitude de faire un grand banquet chez eux, banquet au cours duquel les esprits des ancêtres étaient invités et ils voyaient réapparaître les âmes de leurs ancêtres qui revenaient leur rendre visite.
C'est une invitation au voyage un peu à travers l'histoire du Finistère et de la Bretagne, à laquelle nous invite ce personnage féminin. Et Monsieur de la Borderie, qu'on aperçoit peu après ce dont nous venons de parler, elle ne manque pas d'humour.
Tout à fait.
Puisqu'elle lui dit, donc, n'ayez crainte, elle ne vous a pas lancé de pommes, et à ce que je vois, vous n'êtes pas un homme. Attendez, je vais vous réciter le texte de Pomponius Mela, je le connais par cœur. J'imagine que c'est un épisode, là encore, de cette histoire du Finistère.
Mm-hmm. Tout à fait.
À travers l'Empire, enfin, un événement de l'Empire romain.
Oui. Tout à fait. Alors, on remarque qu'il y a des taquineries, des tensions entre les personnages, entre cette prêtresse celte, la Bansic, et puis Arthur le moine de la Borderie. Pour ceux qui connaissent le Arthur de la Borderie, c'était quelqu'un de très catholique. Il a été député monarchiste dans les années 1870. Enfin, il a voté pour le retour du comte de Chambord sur le trône de France. Enfin, donc on a d'un côté l'historien breton catholique avec la représentante du monde païen celte qui dialogue pour raconter l'histoire du Finistère. C'est assez intéressant.
Alors, l'introduction du christianisme en Bretagne se fait par Corentin de Quimper ou c'est quelque chose de plus diffus ?
L'introduction du christianisme dans le Finistère, ce sont des moines venus... alors, il y avait déjà à l'époque gallo-romaine dans les villes, Rennes et Nantes, une présence chrétienne. On a le martyr de... Alors, ce n'est pas dans la bande dessinée, mais on a le martyr de Saint-Côme et Saint-Damien, il me semble, qui étaient de... Non, Donatien et Rogatien, je confonds. De Saint-Donatien et Rogatien, qui étaient de diacres de Nantes, qui ont été martyrisés, qui attestent une présence chrétienne dans la grande ville de Nantes. Mais
Il y a la figure de Guénolé.
Voilà, la Bretagne reste païenne toute l'Antiquité jusqu'au 5e siècle. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au 5e siècle, à partir de l'an 410, on a un effondrement de l'Empire romain d'Occident.
Oui.
Avec des grandes mutations barbares, des invasions barbares, des changements de population. On a un déferlement des Saxons sur l'actuelle Angleterre, les Angles et les Saxons. Ils envahissent l'île de Bretagne, Britannia, c'est-à-dire la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, peuplée de Celtes, de Bretons, et ils repoussent les Bretons vers l'ouest de la Britannia, c'est-à-dire vers le Pays de Galles, vers la Cornouaille et vers l'Armorique. On a donc une recelticisation de l'Armorique au 5e siècle. Certains historiens pensent que c'est plus de 200 000 personnes en quelques dizaines d'années qui traversent la Manche pour s'installer, refonder une nouvelle Britannia en Armorique qui donnera la Bretagne actuelle. Alors, ces populations celtes qui quittent la Grande-Bretagne pour...
C'est à l'époque de Clovis, hein, que se
Oui, tout
scelle
à fait.
un avenir plutôt intéressant pour la Bretagne.
Un petit peu avant Clovis,
Un petit peu
puisque
avant.
Clovis est baptisé en 1496,
Oui.
grosso modo. Là, on est à partir de 410, la date. Donc, mais c'est une mutation, c'est une des changements, enfin des migrations, les grandes migrations qui quand même s'étalent sur un siècle. Donc à l'époque de Clovis, elles continuaient. Alors les populations celtes de Britannia étaient déjà christianisées, en grande partie christianisées. Et on a la figure effectivement de Corentin, le premier évêque de Quimper, et de
Et alors, ils étaient
Guénolé,
curieusement,
le
enfin pas
ouais.
curieusement d'ailleurs, mais logiquement, ils respectaient la règle de Saint Colomban.
Oui.
Et le passage de la règle de Saint Colomban à la règle de Saint Benoît va être un petit traumatisme en Bretagne.
Tout à fait. Alors la
Parce
règle de
que.
Saint Colomban, on ne la connaît pas très bien, puisqu'il reste peu de traces écrites. Alors, la première chose que l'on remarque, c'est que la tonsure de ces moines celtes
Oui.
n'était pas du tout la même que celle que l'on connaît aujourd'hui. C'était non pas une couronne de cheveux tout autour du crâne, mais c'était vraiment le devant du crâne rasé,
Oui.
et l'arrière du crâne, par contre, on laissait les cheveux longs, ce qui donnait une allure un petit
C'est très à la
peu,
mode.
une allure un peu punk à ces moines. Donc voilà, alors on sait que c'était une règle très austère où on insistait beaucoup sur les pénitences corporelles.
Ah.
Ça avait un petit côté peut-être pélagien, je ne sais pas. Et alors
En revanche, ce qui est
les
extraordinaire,
monastères étaient
c'est qu'ils
mixtes.
étaient ouverts aux femmes
Oui, c'est ça. Les
et que les
monastères étaient.
femmes coprésidaient l'Eucharistie.
Alors, je doute fort qu'elles prononçaient les paroles de la consécration, mais elles avaient un rôle très actif pour la liturgie. C'était des monastères mixtes. Alors, ils ne logeaient pas dans la même maison, mais sur le même espace, on trouvait des groupes d'hommes et de femmes. Et évidemment, avec la réforme carolingienne imposée par Charlemagne dans toute l'Europe, la règle de Saint Colomban est condamnée, et on demande aux communautés de moines, en particulier ceux de l'abbaye de Landévennec qui avait été fondée par Saint Guénolé, d'abandonner
La règle
la règle
de
celtique
Saint
pour
Colomban.
adopter la règle de Saint Benoît, la règle de Saint Benoît qui quand même est plus équilibré et voilà,
Bon, je vois que
moins
vous
fantaisiste.
la défendez, alors que la bande dessinée défend la règle de Saint Colomban à cause de
Mais
la place des femmes,
alors,
qui était plus
oui, ça
reconnue que celle
c'est le
de
côté un peu
Oui.
féministe
Mais...
de notre époque, mais en réalité, comment défendre une règle qu'on connaît très
Oui,
mal?
c'est pas faux.
Et on ne se rend pas bien compte de comment vivaient les moines, quels défis ils avaient à relever.
Alors, quels sont les liens entre
Aujourd'hui,
Bretagne
ouais.
insulaire et Bretagne continentale?
Ah, les liens ont perduré tout le Moyen Âge, c'est-à-dire qu'il faut voir la Manche comme une autoroute, hein, non pas comme une frontière ou une barrière. C'est un les échanges perduraient sans cesse entre les deux mondes qui n'en formaient qu'un. On estime que jusqu'à la fin du Moyen Âge, un Gallois pouvait comprendre un Breton.
Ah oui.
Oui, parce que c'est la même la langue celte était la même, tirée de la même
Mais
origine. Et
aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, les langues ont quand même beaucoup évolué. Le gallois d'aujourd'hui n'est plus le même que celui du Moyen Âge, et le breton qu'on parle aujourd'hui n'est plus tout à fait le même que celui du Moyen Âge. Donc, maintenant, l'intercompréhension n'est plus possible.
Alors, vous écoutez donc Grégoire Poul sur l'antenne de Radio Courtoisie. Et rappelons que Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Vous pouvez découvrir ces magnifiques bandes dessinées aux éditions du Cygne, dans toutes les bonnes librairies, hein, où on peut les commander. Puis j'imagine sur votre site, Sur le site de Salvatore
Non, pas sur le site de Salvatore, en librairie.
En librairie.
Ou sur le site des éditions du Cygne.
Voilà. Alors, l'âge d'or du Finistère, pour vous, commence à partir de ce moment-là. Vous estimez que...
Y a-t-il eu un âge d'or dans le Finistère? Je ne sais pas. Je remarque en lisant cette bande dessinée que les auteurs, tout comme les historiens bretons, s'attardent beaucoup sur ce qu'on appelle les récits fondateurs, les mythes fondateurs, c'est-à-dire cette période de grande migration celtique, d'installation d'un royaume breton avec le roi Nouméinoé en 847, la création du royaume breton par Nouméinoé.
Oui.
Les saints bretons, il y a plus de 1000 saints répertoriés en Bretagne, dont plus de 400 dans le Finistère, des saints qui datent de cette époque, c'est-à-dire des moines celtes qui accompagnaient les communautés chrétiennes, les communautés celtes qui s'installaient en Bretagne dans cette région. Après, c'est vrai que le Moyen-Âge est une période de tumulte. Une période très agitée, on a la guerre de succession de Bretagne qui va endeuiller le duché pendant une trentaine d'années.
Mais c'est quand même à l'époque où la Bretagne était duchée qu'elle a été la plus prospère.
Alors oui, les historiens s'accordent à définir un âge d'or breton à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire les dernières années d'indépendance du duché et les premières années de rattachement du duché de Bretagne au royaume de France, 1532. Je le rappelle. Donc, on a les derniers ducs de Bretagne, François II en particulier, sont à la tête d'un duché qui est extrêmement prospère. C'est à ce moment-là que l'on construit ou que l'on reconstruit toutes les églises, les églises, les chapelles, les enclos.
On construit beaucoup de chapelles.
Voilà, ils mettent tout
le pognon. On fait des chemins, des beaux manoirs.
Voilà, les Bretons en fait mettent tout leur pognon dans les bondieuseries. Voilà, comme dirait un historien gauchiste que j'ai une fois rencontré. Donc, plutôt que d'investir dans une armée pour se défendre ou dans une université pour rayonner, ils mettent tout dans les bâtiments.
Et ils investissent également dans des forts pour se préserver des Anglais.
Oui, aussi, c'est à partir de... Oui, bah c'est surtout Vauban.
Le fameux château du Taureau dans la baie de Morlaix, 1542.
Oui, le château du Taureau, effectivement. On se protège des Anglais, et en fait, la Bretagne est très prospère, donc on est au début du XVIe siècle. Oui. C'est grâce à son industrie des toiles de lin. La Bretagne est une spécialiste mondiale du drap de lin, qui sert pour le vêtement, mais qui sert aussi pour la navigation à la voile.
La marine marchande bretonne est l'une des plus puissantes d'Europe. À Arnemuiden, dans l'avant-port d'Anvers en 1533, 81% des bateaux sont bretons.
Oui.
Je crois que ça, c'est pas connu du tout.
En fait, c'est les toiles de lin, c'est un peu l'équivalent du pétrole aujourd'hui, pour le pétrole qui permet aux bateaux de fuel de faire du commerce international. Bah, à l'époque, c'était la toile de lin qui propulsait avec le vent, qui propulsait les caravelles. En fait, Christophe Colomb a probablement découvert l'Amérique grâce à une voile de lin tissée à Landerneau.
Alors, rappelons que Radio Courtoisie vit grâce à ses auditeurs et il faut aider la radio à rester indépendante.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Alors, cher ami, cher Grégoire Poul, nous parlions de la prospérité, évidemment, bretonne. Il faut savoir qu'en pays Bigoudin, à Penmarc, on a le premier port européen pour l'armement de bateaux de commerce en France, en France, en Bretagne.
Oui. Tout à fait. Donc la Bretagne propulsée grâce à son industrie du lin, mais il y a également les forges avec la vaisselle d'étain aussi. Donc les métaux.
Ce sont les guerres de la Ligue qui vont mettre fin à cette prospérité.
Oui, les guerres de la Ligue, c'est les guerres de religion. Vous avez la Bretagne reste majoritairement catholique.
Oui.
Un de mes amis m'a dit si la Bretagne est restée catholique, c'est parce que les pasteurs protestants n'ont pas fait d'efforts pour apprendre le breton et traduire les œuvres de Luther en breton. Ça vaut ce que ça vaut comme explication, mais pourquoi pas. Vous avez quand même une petite partie de la noblesse, en particulier dans le Morbihan à l'intérieur des terres, le duc de Rohan, pour ne nommer personne, qui penche vers la réforme protestante.
D'ailleurs, ils sont tentés par ce qui va devenir les Pays-Bas. On appelait ça les Provinces Unies, qui avaient fait sécession et qui s'organisaient en république.
Oui, alors on a un pouvoir royal qui est très affaibli. La Bretagne est gouvernée, d'un point de vue militaire, par le duc de Mercœur, qui est le chef du parti catholique en Bretagne. Donc le
Louis
chef
XIV
de la Ligue
est, Louis XIV est catastrophique pour la Bretagne.
Alors on n'est pas encore à l'époque
non,
de Louis
on
XIV,
est pas encore.
Les guerres de la Ligue, donc on est là, on est vers 1600
oui,
à peu près, la réforme protestante. Et en fait, la Bretagne va servir de terrain de football pour un match entre l'Angleterre et l'Espagne.
Oui.
C'est en résumé, les guerres de la Ligue, c'est ça. C'est vous avez des troupes anglaises qui débarquent pour soutenir les Huguenots, le parti Huguenot. Vous avez des troupes espagnoles qui vont aussi débarquer pour en découdre avec les Anglais. Et puis la Bretagne se trouve au milieu sur ce terrain de football. Les guerres de la Ligue vont complètement saigner, désorganiser l'industrie, saigner les populations, provoquer des famines. Et là, on a la fin de l'âge d'or breton.
Et je disais donc, évidemment, le siècle suivant, pour financer ces guerres, Louis XIV saigne un peu la Bretagne, en tout cas ne respecte pas.
Ah oui,
respecte pas le Parlement. Enfin.
L'absolutisme royal, donc, qui veut imposer par la force de nouveaux impôts. Alors, il faut savoir que la Bretagne a rejoint le Royaume de France en 1532.
Mais qu'elle avait un statut
particulier. Mais dans des conditions très particulières. C'est-à-dire que les rois de France étaient engagés. C'était François Ier à Vannes. Il est allé à Vannes pour recevoir les États de Bretagne. Ce qu'on appelle les États, c'est ce qui équivaut à peu près à un Parlement aujourd'hui, une Assemblée nationale. Les États, c'est 800 personnes en Bretagne, principalement des nobles, les membres du haut clergé, quelques représentants des riches familles de commerçants. Donc c'est pas un parlement très démocratique, hein, représentatif de la population.
Ce sont les paters familiales.
Voilà, les classes dirigeantes qui représentent les intérêts de la province de Bretagne.
Oui.
Et sous l'Ancien Régime, il est impossible de lever un nouvel impôt sans l'assentiment des États. Les États ne se réunissent qu'une ou deux fois par an.
Oui.
Donc c'est pas comme l'Assemblée nationale d'aujourd'hui où ils n'ont que 15 jours de pause en été, ils débattent jour et nuit. Là, ils ne se réunissent qu'une ou deux fois par an, voire même parfois plusieurs années sans se réunir. Et impossible de lever de nouveaux impôts. Alors Louis XIV, lui, va passer outre. Il a besoin d'argent et il va inventer ce que l'on utilise toujours aujourd'hui lorsque l'on a des démarches administratives à faire. On est obligé d'acheter des timbres fiscaux au PMU. Sinon, l'acte n'a aucune valeur juridique. Alors lui, Louis XIV, va exiger à ce que tous les actes juridiques, testament, titre de propriété, contrat entre commerçants, soient rédigés sur du papier timbré, qu'il faut acheter, évidemment. Alors là, ça va provoquer une levée de boucliers dans toute la région, dans toute la province, et en particulier dans le Finistère, où les combats vont être extrêmement violents. Et cette rébellion va être menée dans le Finistère par un notaire. Forcément, c'est le premier concerné par le nouvel impôt.
Oui.
C'est Sébastien Le Balpe, qui a sa statue à Carhaix. Le chef des Bonnets Rouges qui va soulever les paysans. Alors là, on a vraiment, c'est les Gilets jaunes puissance 10, hein, c'est toute la population qui se révolte avec le clergé.
Même les Bonnets Rouges qu'on a vu
avec
réapparaître.
Avec le clergé, avec la petite noblesse.
Oui.
Donc ils vont jusqu'à blesser le marquis de la Coste, qui était en fait le lieutenant de police du secteur. Il s'empare de forteresses, il tue les garnisons, il manque même de pendre l'évêque de Rennes.
Ah oui.
Oui, qui échappe de justesse à la mort. Alors là, c'est la population est vraiment en ébullition. Donc on voit ça dans la bande dessinée, les pages 28, 29, avec un graphisme vraiment très très parlant, très éloquent.
Oui,
c'est un peu de sang, des explosions. C'est vraiment une bande dessinée d'aventure que nous avons là.
Ah oui.
Des coups d'épée, des duels. Et finalement, pour mater cette révolte, Louis XIV ne connaît pas la douceur. Hein,
non.
Il envoie les troupes de la maison du roi, c'est-à-dire tout simplement les troupes d'élite de l'armée française qui étaient chargées de protéger la capitale et le château de Versailles. Donc on va avoir arriver les mousquetaires, les dragons, les troupes aguerries qui vont quadriller le pays, brûler des maisons, cantonner tout l'hiver aux frais de l'habitant. Mater la révolte.
Ils se comporteront de la même manière en Franche-Comté.
Quand Sébastien Le Balpe, lui, est tué au cours d'un duel pour une histoire de cœur, un conflit sentimental.
Ces Bretons se vautrent dans le passé. Et la cause commune, monsieur Caisse, l'État, mon cher, l'État. Qui apporte progrès et lumière. Je trouve que cette réflexion, ce dialogue, résume un peu tout le drame que va vivre la Bretagne à l'époque de la Révolution, puisque elle va croire de manière un peu girondine s'exonérer de l'État, et alors qu'en réalité, ça va être pire. Sa situation va devenir pire que celle qui prévalait auparavant.
Tout à fait. Donc vous voulez sans doute aller jusqu'à la Révolution française. Donc on peut dire que la Révolution française a été déclenchée en Bretagne avec le Parlement de Rennes. Alors ce qu'on appelle un Parlement, c'est une cour de justice. Ça a donné nos cours d'appel. Les premières émeutes avant la prise de la Bastille 14 juillet, c'est en mai 1789, c'est à Rennes, c'est des combats entre des députés de la noblesse et députés du tiers-état avec plusieurs morts. Et puis au moment de la création la convocation des états généraux à Versailles, ce sont les députés bretons qui vont fonder le club breton qui deviendra plus tard le club des Jacobins, qui au début de la Révolution sont un peu en avant-garde des idées nouvelles.
Paraît incroyablement paradoxal.
Mais ils vont se laisser très vite déborder et décevoir par l'évolution de la Révolution française.
Parce que les Girondins avaient beaucoup plus l'esprit provinces que les Jacobins.
Alors, avec...
Jacobins étaient... Non, c'est plus complexe que ça.
C'est plus complexe que ça. Disons que les Girondins veulent que chaque département soit autonome et que les prises de décision se fassent au niveau des départements. Donc, on fait disparaître les provinces. En 1790, la Bretagne, administrativement, n'existe plus. Il n'y a plus que 5 départements. On supprime d'un trait de plume la nuit du 4 août les privilèges de la province de Bretagne. Les États de Bretagne sont dissous. Le Parlement de Rennes est également dissous. Donc toutes les institutions qui faisaient encore que la Bretagne existait politiquement.
C'est lors de la fête de la Fédération.
Voilà, n'existent plus.
C'est la nuit du 4 août
consacrée par la fête de la Fédération un an plus tard.
Effectivement. Et donc on peut considérer que c'est...
C'est la mort administrative de la Bretagne et la création de nos fameux départements, dont le département du Finistère.
La période va être synonyme d'appauvrissement considérable pour la Bretagne, comme pour d'ailleurs d'autres...
Tout le 19e siècle, les industries n'existent plus, l'étoile de lin ne tourne plus, il n'y a plus de marché à l'exportation, c'est plutôt le coton qui est à la mode à partir du milieu du 19e siècle. Alors cette bande dessinée nous présente quand même les événements particuliers qui ont eu lieu dans le Finistère pendant la Révolution française. On a notamment l'évocation de la bataille de Kerguidu. Oui. La bataille de Kerguidu, qu'est-ce que c'est ? Alors cette bataille
qui est décrite par l'abbé Monnoir. c'est ça ?
Ah non, pas du tout.
Pas
c'est
du tout.
C'est la, bon. l'abbé Inizan.
Ah, c'est Inizan.
L'abbé Inizan, dans son roman, oui. La bataille de Kergidu. Alors, c'est un roman qui a été écrit en breton. Ça a été le premier best-seller en langue bretonne au 19e siècle. Emgan Kergidu, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Oui. À l'époque, c'est une émeute en fait qui vire à la bataille rangée. C'est-à-dire qu'on a la constitution civile du clergé qui est proposée par l'Assemblée nationale, qui vise à nationaliser l'Église. C'est-à-dire l'Église ne dépendra plus du pape de Rome,
non.
Du pape, ce n'est plus le pape qui nommera les évêques, ce ne sont plus les évêques qui nommeront les curés, ce seront les électeurs qui nommeront le curé, qui éliront le curé
payé par l'État.
Et l'évêque sera nommé par le préfet.
Oui.
Et tout le monde, et voilà, on transforme les curés en fonctionnaires de la République française.
Oui.
Alors évidemment, la quasi-totalité de l'épiscopat refuse. Alors, cette constitution prévoit également la suppression d'un tiers des diocèses. C'est-à-dire, on passe de 150 évêchés à moins d'une centaine, puisqu'on ne garde plus qu'un seul évêché par département. Alors, ce qui fait disparaître le petit diocèse de Saint-Paul-de-Léon. C'est un diocèse très fervent,
oui.
Beaucoup de vocations, beaucoup de prêtres, un taux de pratique religieuse avoisinant les 100%, et un évêque très populaire, Monseigneur de la Marche, qui apparaît à la page 33 de notre album. Monseigneur de la Marche est surnommé par les paysans un escope patatèse. L'évêque aux patates. Pourquoi ? Parce qu'il a tout simplement été un sponsor agricole. Il a encouragé les cultures de pommes de terre dans la région, ce qui a considérablement... Enfin, qui a supprimé les famines, les disettes. Et donc, il est très populaire. On lui explique que son siège n'existe plus. Du coup, il proteste publiquement. Il refuse de prêter serment à cette constitution civile du clergé. Les paysans
accourent en
masse
le 19 mars 1793.
Pour le soutenir, puisqu'il est déclaré hors la loi, donc les gendarmes viennent pour l'arrêter. Oui. Finalement, il s'échappe, il part discrètement en Angleterre, mais les paysans restent sur place. Plus de 5000 hommes armés de fourches, de bâtons et de haches, parfois de fusils, vont affronter les gendarmes. Pendant plusieurs jours, tout autour de Saint-Paul-de-Léon, et ça va se terminer par une confrontation extrêmement violente au pont de Kergidu, le village du Chien Noir, où là, les canons du général Canclot vont disperser et briser la révolte. Mais ça a vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui les mentalités.
Oui, parce qu'on peut dire que tout s'est arrêté à ce moment-là.
La révolte s'est arrêtée. Alors, il y a également l'évocation d'une fête en l'honneur du Mirabeau à l'Estévin. Ce sont les clubs de francs-maçons locaux qui organisent, ils veulent organiser une fête laïque en l'honneur de l'avocat Mirabeau, qui était à l'époque le leader de la
Révolution.
Voilà, le leader du député du tiers-État.
Du tiers-État.
Donc, ils font une espèce de procession avec des portraits de Mirabeau, des chansons.
Ça n'a pas duré longtemps, puisque
et
Mirabeau
en fait,
s'est retrouvé...
les paysans viennent assister à cette cérémonie, et puis en fait, ils la trouvent complètement ridicule. Et donc, les gens vont se moquer de ce nouveau culte en l'honneur de Mirabeau, et ce qui va provoquer un flop,
oui.
Un flop qui est resté mémorable.
Alors, Pierre-Louis Ragmet, président du tribunal révolutionnaire de Brest, signa un mandat d'amener contre 30 administrateurs du Finistère coupables d'avoir soutenu une insurrection fédéraliste. Ils furent emprisonnés à Carex, à Morlaix et à Landerneau en attendant leur procès. Cette insurrection fédéraliste a été le dernier sursaut de cet esprit,
oui,
breton, de cet esprit de, je
alors,
dirais presque national.
Les fédéralistes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait les héritiers des Girondins qui veulent, qui contestent le pouvoir absolu du comité de salut public de Robespierre, qui voulait régenter toute la France depuis Paris. Il y a eu effectivement des troupes fédéralistes qui ont essayé de s'organiser à partir des sections de patriotes, de sections de révolutionnaires locales, dans le but de renverser Robespierre, et elles ont été défaites, il me semble, à la bataille de Brécourt, à peu près une cinquantaine de kilomètres de Paris, et puis les meneurs ont été condamnés et guillotinés.
Alors, émigration, hein, d'une partie de la population par la suite.
19e siècle, oui, c'est l'exode
Voilà.
rural.
Hein.
On a les campagnes se
Notamment
vident.
de l'arrêt. Je suppose que ce qu'on appelle l'arrêt, c'est les monts d'arrêt.
Les monts d'arrêt, tout à fait.
On les voyait par centaines descendre le long des montagnes, hommes, femmes, enfants, tous pâles de faim et chantant les complaintes de la cornouaille.
Oui, alors là, vous voyez dans la bande dessinée apparaître un troisième
Oui.
fantôme.
Oui.
C'est le fantôme d'Émile Souvestre. Alors, vous voyez, là, les scénaristes se sont plaît. Oui, c'est ça, ils se sont plaît. Ils se sont plaît.
Se sont complus.
Ils se
Ah.
sont complus, voilà, ils se sont plus à faire intervenir des fantômes comme ça, très, très, très variés dans leurs idées, mais qui se unissent par leur amour de la Bretagne, mais vraiment très divers au niveau des idées. Parce qu'on a Arthur de Lamoine de la Borderie, qui était plutôt catholique, monarchiste, voilà. Et Émile Souvestre, lui, c'est plutôt un socialiste de gauche. Et ben c'est par contre grand collecteur de contes, de chansons, de folklore local. Et donc ces deux historiens de la Bretagne vont accompagner le lecteur à partir de la page 40 pour dans leur
Alors,
découverte de
je
l'histoire du
parlais
Finistère.
d'un exode, mais il y a surtout de la famine, et notamment dû au fait que l'Église n'a pas pu encore se reconstituer après évidemment sa destruction durant l'époque révolutionnaire.
Oui, alors la Révolution française, l'Église est complètement sort complètement laminée, ruinée. Le clergé est parti en exil, il ne reviendra pas totalement. L'Église a perdu tous ses domaines. Dont les hôpitaux ne fonctionnent plus, les écoles, il n'y a plus de. D'ailleurs, certains historiens pensent même que la pratique de la langue française recule complètement, voire disparaît totalement dans l'ouest de la Bretagne à cause justement de l'effondrement des écoles. De
Oui,
l'effondrement de l'Église.
effectivement.
Et puis l'Église va remettre pratiquement 60 ans à se reconstruire et pour devenir extrêmement puissante à la fin du 19e
Ah
siècle.
oui, on peut
Mais
même dire que non seulement à la fin du 19e siècle, mais durant tout l'entre-deux-guerres, l'Église a été très prégnante.
très prégnante, voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
Non, non. Et donc, j'ai parlé d'émigration, je parle évidemment de disette et même d'épidémie, hein, on dira ça au
Ah bah
sein de
la
la
terrible
bande
épidémie de
dessinée.
choléra qui arrive par Brest, hein, des marins qui rapportent cette maladie qui va faire des ravages, tuer des dizaines de milliers de personnes dans toutes les campagnes. On l'avait surnommé le mal de Brest, qui était évoqué dans cette bande dessinée.
Alors, l'Église va jouer un rôle pour aider les Bretons à retrouver leurs racines. Hein,
Oui.
je pense à Monseigneur de Poulpiquet, par exemple, qui évêque de Quimper et de Léon. Monsieur l'abbé de Trévoux, vous avez ma bénédiction pour éditer et compléter l'Uez Arzent de ce cher Don Lobineau.
Oui, alors l'Église comprend que elle doit absolument, pour évangéliser la population, lui parler dans sa langue, ce qui est très facile parce que le clergé est issu lui-même de la paysannerie bretonne, donc il connaît déjà la langue, et on voit arriver comme ça des autorités religieuses, les évêques, qui encouragent la publication de livres de dévotion en breton. Tout au long du 19e siècle, on a comme ça des rééditions régulières de Buez Arzent, La vie des saints,
Oui.
plusieurs éditions successives, chaque fois augmentées, qui en fait sont lues dans toutes les familles. Hein. Les gens, ils n'avaient pas la télévision, n'avaient pas la radio, donc avant de s'endormir le soir, quelqu'un lisait un chapitre de La vie du saint du jour. Il y avait des livres, voilà,
La
des livres de dévotion.
publication en 1838 du Barzabrez ou du jeune Quimperlois Théodore de la Villemarqué fait l'effet d'une bombe littéraire. L'écrivaine George Sand est émue aux larmes.
Oui, alors le Barzaz-Breiz, c'est un monument de la littérature en langue bretonne. Donc on est dans le 19e siècle romantique. On a quelqu'un de très particulier, Théodore Ersart de la Villemarqué, qui est lui aussi un chartiste. C'était lui aussi un catholique.
Oui.
Il fait du collectage auprès des paysans du département du Finistère. Et
Il réunit tout cela
il réunit
en
en
volume.
fait des chansons, qu'il expose avec les partitions versifiées, les chansons versifiées. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des chansons qui sont très anciennes, qui se transmettent de génération en génération. On s'aperçoit que certaines sont très anciennes. Elles remontent au haut Moyen-Âge. On montre qu'il y a vraiment un génie littéraire breton qui a existé depuis longtemps et qui existe toujours.
Et on verra, malheureusement, il nous reste très peu de temps, mais nous laisserons évidemment les auditeurs découvrir la suite de l'histoire, c'est-à-dire la fin du 19e et tout le 20e siècle. Mais j'ai plaisir et j'ai bonheur à répéter une phrase de George Sand qui prétend que le Tribut Nominoé est plus grand que l'Iliade, plus beau, plus parfait qu'aucun chef-d'œuvre sorti de l'esprit humain.
Est-ce que vous
êtes d'accord avec ça?
C'est George Sand, donc un esprit très sensible, très romantique, donc prêt à s'enthousiasmer. Mais c'est vrai que le Barzaz-Bresse vient d'ailleurs d'être réédité il n'y a pas longtemps dans une version bilingue, donc on peut la trouver très facilement en librairie. Barzaz-Bresse qui veut tout simplement dire poésie de Bretagne.
Est-ce que vous voulez conclure, avant que nous entendions un dernier extrait du Bagad de Lambéwe?
Oui.
Est-ce que vous voulez ajouter un mot sur ce qu'il adviendra et ce qu'il advient maintenant de
l'histoire du Finistère. Alors donc, la bande dessinée continue avec l'évocation de la guerre de 14 qui a complètement saigné les campagnes. On a également la période de l'entre-deux-guerres qui est évoquée sur une planche avec la création d'un mouvement autonomiste breton. Ce mouvement qui va durer en gros jusque dans les années 80 avec
l'évocation aussi de Pierre Jacques Elias qui crée un programme d'émission en breton.
Oui.
Alors, c'est une chose importante. Et puis évidemment Le Cléage par exemple qui a gagné le Vendée Globe.
Voilà, on a l'évocation du FLB, de la Seconde Guerre mondiale avec la destruction de la ville de Brest. Oui. Et puis la Moco Cadiz. Qui a traumatisé les côtes du Nord Finistère, la côte du pays des Abers, souillée par une marée noire. Cette bande dessinée se termine quand même par une touche optimiste.
Sur une figure de femme.
Voilà, figure de femme.
Savoir Anne Kéméré.
Anne Kéméré.
Qui avait gagné, qui n'a pas gagné, mais qui a. Donc l'embarcation.
Oui. C'est une traversée du passage du Nord-Ouest à bord d'un bateau solaire, embarcation solaire.
Oui.
Donc,
2018.
Bretagne, terre d'entrepreneurs, de visionnaires, sait toujours se relever malgré les défis qu'elle traverse.
Eh bien, merci beaucoup, Grégoire Poul. Je rappelle très rapidement donc, les albums, Le Finistère, Une histoire entre terre et mer, Morbihan, et puis enfin...
Il existe également les côtes d'Armor,
voilà, aux éditions du Cygne.
Et bientôt l'île et Vilaine.
Et maintenant quelques extraits donc du Bagad.
Thank you. venez d'entendre Au fil des pages, dirigé par Benoît Mancheron, émission préenregistrée le 25 juillet 2026, diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 5 août de 10h à 11h et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.